Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast de la JLMB. Je suis Patrick Henry, avocat et rédacteur en chef de la revue Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, aussi appelée JLMB. Dans la revue, tout comme dans ce podcast, nous commentons principalement des décisions de jurisprudence prononcées par des juridictions des ressorts des cours d'appel de Liège, Mons ou Bruxelles. Cette semaine, je vais vous parler de la responsabilité de l'État en matière de changement climatique. Ce sujet est traité par la Cour d'appel de Bruxelles, dans un arrêt qui a déjà fait beaucoup de bruit, du 30 novembre 2023. Denis Philippe et Ivana Jean-Marc le commentent dans le numéro 9 de notre année 2024. Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. Les faits qui gouvernent cette affaire sont bien connus. Nous vivons une période d'intense changement climatique. Déjà à plusieurs reprises dans le monde, et particulièrement aux Pays-Bas, des actions étaient entreprises par des collectifs de citoyens pour tenter de faire reconnaître la responsabilité des États, voire de certaines sociétés privées, dans la réalisation de ces changements climatiques et des dangers qu'ils font peser sur les hommes et la planète. Une pareille action est soumise aux juridictions belges. Elle a déjà été tranchée par le tribunal de première instance de Bruxelles. Elle a été portée en appel et c'est donc par son arrêt du 30 novembre 2023 que la Cour va prononcer son arrêt. Elle commence par une question relative à la recevabilité de l'action et sur ce point, pas de grande surprise. La Cour considère que la circonstance que d'autres personnes que celles qui ont introduit une procédure puissent subir les mêmes dommages ou violations de leurs droits fondamentaux ne suffit pas à transformer l'intérêt propre de chacun des demandeurs en intérêt général. Celui-ci n'est en effet pas l'addition des intérêts individuels, et donc l'action introduite par certains demandeurs, victimes potentielles de ces changements climatiques, est recevable. Puis, la Cour en vient à l'examen du fond par une analyse particulièrement fouillée. C'est un arrêt qui présente plus de 100 pages, que nous ne publions d'ailleurs pas dans sa totalité. Nous n'en publions que de larges extraits et un commentaire de Denis Philippe et Ivana Jean-Marc. Le raisonnement est donc complexe. La Cour s'assied sur le principe que la Belgique a souscrit des engagements à l'échelle internationale et mondiale qui se déclinent en trois périodes, de 2008 à 2012, de 2013 à 2020 et puis de 2021 à 2050, pour chacune desquelles des engagements en matière de réduction de gaz à effet de serre, ont été souscrits volontairement par la Belgique. En ce qui concerne l'existence réelle d'un préjudice, la Cour va constater que les rapports du GIEC démontrent à suffisance non seulement que le lieu et les conditions de vie de tous les individus, et donc des demandeurs, sont et surtout seront impactés par le réchauffement climatique, mais également que cet impact sera extrêmement important. La Cour cite sans exhaustivité augmentation dangereuse du niveau des températures et des mers, ce qui impactera particulièrement la Flandre, risque accru d'inondations, de pénurie d'eau, d'impact négatif sur la santé humaine, y compris mentale, avec un phénomène croissant d'éco-anxiété, mise en péril de la sécurité alimentaire, migration climatique, pauvreté accrue. Tout cela constitue des dommages réels. La Cour constate ensuite qu'à l'exception de la région wallonne, aucune des parties défendresses, c'est-à-dire l'État, la région flamande et la région de Bruxelles capitale, n'a été en mesure de se fixer des objectifs compatibles avec ce que la meilleure science climatique, qui était validée par l'accord de Bali et donc par la communauté politique internationale, imposait au regard de l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La Cour relève également que l'Union européenne a plusieurs fois mis en garde l'État belge contre le risque de ne pas atteindre l'objectif pendant sa seconde période d'engagement 2013-2020. L'État belge, la région flamande et la région de Bruxelles-Capitale sont en défaut de démontrer qu'ils auraient pris les mesures appropriées et, raisonnant d'une façon extrêmement complexe et détaillée, la Cour va essayer de déterminer quel est le seuil à partir duquel elle peut constater qu'une faute a été commise par les pouvoirs publics. Différents objectifs ont été cités dans les différentes conventions qui ont été prises. On a parlé de 81% de réduction des gaz à effet de serre. La Cour considère qu'elle ne peut aller si loin, qu'elle ne dispose pas d'un contrôle plein et entier qui lui permettrait de sanctionner sans se référer par rapport à une base tout à fait certaine. Et cette base tout à fait certaine, la Cour la trouve à hauteur d'une réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre de 2030 par rapport à 1990. Et là, la Cour constate qu'effectivement, l'État belge, la région flamande et la région de Bruxelles-Capitale n'ont pas pris les mesures qui sont nécessaires pour aboutir à pareille réduction. La Cour considéra que l'absence d'accord de coopération ou de coopération suffisamment intégrée au niveau national ne permet pas, comme tel, de conclure à l'existence de manquements à la coopération commis par toutes les parties. Mais cet élément ne permet ni à l'État belge, ni à la région flamande, ni à la région de Bruxelles-Capitale d'éluder leurs responsabilités individuelles en ce qui concerne la politique climatique qu'ils sont menés jusqu'ici. Vu son manque d'ambition et de résultats, la politique adoptée par ces entités de l'État fédéral est constitutive d'une faute pour chacune d'elles. Se pose ensuite la question de savoir s'il y a un réel dommage, ce que la Cour va constater de façon relativement aisée. Le lien causal est également établi. Certes, dit-on, le fait que la Belgique prendrait les mesures qui sont attendues d'elle ne suffirait pas à lui seul à réduire les effets liés au changement climatique. Mais nous sommes dans le cadre de la théorie de la responsabilité, anciens articles 1382 et 1383 du Code civil, équivalence des conditions, et par conséquent, le fait qu'il y ait des fautes qui contribue à la réalisation du dommage, même si, dans l'hypothèse où ces fautes n'avaient pas été commises, on ne pourrait évacuer totalement la réalisation de ce dommage, suffit à engager la responsabilité des pouvoirs publics. Les juridictions du pouvoir judiciaire ont le pouvoir tant de prévenir que de réparer toute atteinte illicitement portée à des droits subjectifs par des autorités publiques, et ils peuvent, sans violer les principes de séparation des pouvoirs, ordonner à l'administration de prendre des mesures qui mettent fin à cette atteinte. La Cour considère cependant que, à ce stade, elle ne peut assortir son injonction de prendre des mesures tendant à atteindre l'objectif de 55% de réduction des gaz à effet de serre d'une astreinte. Elle attend la communication par l'État de chiffres qui lui permettront de juger de façon tout à fait certaine, et elle remettra la cause à date ultérieure, permettant à chaque partie de la ramener pour vérifier si effectivement l'injonction de prendre les mesures nécessaires pour atteindre cette réduction de 55% est suffisamment établie et si une astreinte doit être ordonnée. Denis Philippe et Ivana Jeanmar ont ensuite rédigé une synthèse des grandes données de cet arrêt par une note de commentaire que nous publions également dans le numéro 9. C'est important de prendre connaissance de leurs commentaires. L'arrêt, comme je vous le dis, est très long, très touffu. Il y a là un résumé qui permet effectivement de mieux comprendre quelles ont été les décisions qui ont été prononcées et aussi de les mettre en contexte par rapport à un certain nombre d'arguments qui avaient été développés par chacune des parties, en s'arrêtant sur la question notamment des liens entre l'effet direct des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 2 et l'article 8 de la Convention ont-ils un effet direct en ce qu'ils protègent 1. Le droit à la vie, 2. Le droit à la vie privée et à la vie familiale. Est-ce que effectivement une absence de réglementation protectrice des dangers que présentent les changements climatiques constitue une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil? Oui, disent-ils en commentant l'apport de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Quant à la portée du contrôle que les juridictions judiciaires peuvent porter sur l'action du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, la question de savoir si ce contrôle est seulement marginal, la question de savoir si la séparation des pouvoirs interdit l'adoption de toute injonction ou seulement de certaines injonctions, tout cela est examiné avec grande attention. Il ne m'est pas possible, en quelques secondes, de pouvoir résumer l'ensemble de ces développements qui portent sur des points théoriques qui sont parfois extrêmement précis. Et je vous renvoie donc aux commentaires et au texte de l'arrêt pour de plus amples informations. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMB. Je remercie Denis Philippe et Ivana Jean-Marc pour leur article. Je rappelle qu'il figure dans le numéro 9 de notre année 2024. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. À la semaine prochaine pour l'analyse d'une nouvelle décision de jurisprudence.